Nos équipes sont intervenues il y a quelques semaines en République centrafricaine où a surgi une crise nutritionnelle grave. Dans ces cas-là, on traite les enfants qui viennent dans un centre. On peut même les soigner au domicile avec des produits qui comportent un certain nombre d'éléments de renutrition, des vitamines, avec des protocoles qui font que les femmes, les mères peuvent prendre ces produits à la maison, traiter les enfants à la maison. Et on voit en 4 semaines des enfants qui reprennent du poids et qui sont véritablement sortis d'affaires. Il faut diffuser ces produits, il faut diffuser ces protocoles, soit en direct avec des équipes humanitaires comme on sait le faire, soit en partenariat avec des ministères de la Santé d'un certain nombre de pays africains qui prennent à bras le corps la question de la nutrition, mais qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de soutien de la part des pays plus riches pour trouver des solutions à ce fléau de la malnutrition.
Est-ce que, selon vous, le développement des petites exploitations qui est souvent cité est vraiment la solution dans la plupart des pays qui souffrent de la faim ?
Oui, c'est clairement une solution parce que on a vu dans les années 80-90 un développement des cultures d'exportation et en même temps une réduction des investissements sur les petites agricultures. Et il faut rappeler un chiffre quand même qui est frappant, qui est que 70% du milliard de personnes qui souffrent de la faim sont des paysans, sont des personnes qui habitent dans les campagnes. Et donc le fait de produire sur place pour les populations qui sont autour des zones de production, c'est vraiment du bon sens. C'est vers ça qu'il faut aller. Réinvestir massivement l'agriculture familiale de proximité, c'est clairement une voie vers laquelle il faut aller. Le problème, c'est que ça ne suffira pas si par ailleurs, on n'arrive pas à mettre en place des mécanismes de stabilisation des prix agricoles sur le plan mondial qui fait qu'un petit agriculteur puisse investir, avoir un minimum de prévisibilité pour qu'il ne soit pas inondé par des produits de l'extérieur ou que ces produits s'effondrent et qu'il soit obligé de faire faillite même sur le plan local.
Autrement dit, la solution est à la fois locale par le biais de ces petites exploitations et globale par le biais de la stabilisation des prix.
Exactement. Mais sur le plan de la stabilisation des prix, on en est loin, hein, puisqu'il n'y a pas d'accord sur le plan international. On voit que déjà au niveau de l'Europe, il y a des soucis majeurs sur ce plan-là. Et de surcroît, les outils qui permettraient de stabiliser les prix agricoles avec des logiques de marché à terme ou d'intervention sur les marchés pour faire en sorte qu'il y ait des régulations, comme on est en train de mettre des régulations sur le plan financier international, on est extrêmement loin du compte. Donc il y a un véritable enjeu politique de coordination internationale qu'il faut mettre en œuvre pour aller vers une stabilisation, en tout cas une prévisibilité des prix pour les petits agriculteurs des pays du Sud.
Alors certains pays ont quand même gagné leur lutte contre la faim, ou tout au moins ont réalisé de grands progrès, comme le Brésil par exemple. Est-ce que pour vous c'est une source d'espoir et surtout une source d'enseignement pour d'autres pays qui sont encore confrontés au problème ?
La leçon numéro un que je retiens du Brésil, c'est qu'on a un pouvoir politique qui s'est emparé du sujet, qui l'a mis en priorité numéro un avec un gros programme national, et dans un certain nombre de pays d'Afrique, on devrait aussi avoir une mobilisation politique des dirigeants qui se mobilisent sur la question centrale de leur population.
Est-ce que vous espérez que ce soit le message qui passe lors du sommet de la FAO ?
C'est une priorité éthique et c'est aussi un enjeu d'équilibre de la planète. Si demain on laisse mourir durablement des centaines de millions de personnes, il est clair qu'on ira vers une aggravation des conflits, une aggravation des problèmes de sécurité. Donc il est absolument nécessaire que les chefs d'État se mobilisent sur cet enjeu-là, mettent des moyens financiers sur la table et puis aillent vers les politiques de coordination puisque simplement de générer des subventions, ça ne suffira pas.